Le journal de Raphaël Chalvera.
Bonsoir. La société immobilière jurassienne Imjur achète le bâtiment des Ursulines à Port-en-Truil. L'édifice était vide depuis la fermeture de l'école il y a environ un an. L'affectation future du lieu reste à déterminer. Les très riches heures du Jura s'installent au collège de Delémont. La frise réalisée par le dessinateur Pitch Comment en 2019 et qui raconte l'histoire de la région y a pris ses quartiers définitivement. L'œuvre a été complétée l'an dernier après le vote de Moutiers. Patrick Fischer restera-t-il le sélectionneur de l'équipe de Suisse de hockey sur glace? La question se pose après l'échec des Helvètes hier en quart de finale du Mondial. Pour notre consultant Geoffrey Vauclair, une nouvelle vision semble nécessaire. La météo du week-end de Pentecôte s'annonce clémente avec des conditions bien ensoleillées. Seules quelques averses isolées sont possibles dimanche et lundi. Il fera demain 23 degrés au maximum dans les vallons et 20 sur les hauteurs. La société immobilière jurassienne Imju devient propriétaire de l'ancienne école de Sainte-Ursule. Le conseil de fondation a vendu le bâtiment emblématique de Port-en-Truil. L'édifice était inoccupé depuis près d'un an et la fermeture des Ursulines. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Le conseil de fondation avait estimé le bâtiment à 1,7 million de francs, mais il avait laissé entendre il y a quelques mois que ce montant serait revu à la baisse face aux difficultés rencontrées pour trouver un acquéreur. En ce qui concerne l'avenir de ce lieu emblématique, la société Imju n'a pas encore de projet ficelé, comme l'explique son co-directeur Paul Chèvre.
On a plusieurs pistes en cours de réflexion. Tout est allé très vite entre le moment des discussions et de l'achat, donc on n'a pas eu le temps de faire les analyses nécessaires. Donc rien n'est arrêté aujourd'hui. Notre objectif, je pense, ça sera de rencontrer les institutions sociales, les autorités communales, et autres potentiels acteurs intéressés par ces locaux, et puis de définir ensemble les besoins des divers acteurs pour éventuellement arriver à définir une solution et établir un plan d'action pour la suite, quoi.
Vous devrez faire des travaux. Comment ça va se passer? Est-ce que là, vous avez quand même imaginé déjà certaines choses à ce niveau-là?
Alors oui, bien sûr. Dans un premier temps, ce qu'on voudrait faire, c'est un rafraîchissement général du bâtiment. Donc on va commencer par rafraîchir les façades, éventuellement changer les fenêtres pour tout ce qui est la partie énergétique, enveloppe du bâtiment. On devra bien sûr avoir des contacts avec le patrimoine, avec la commune, etc.
Des propos recueillis par Alexandre Rossi. Pas le budget ni les études nécessaires. Alors que la réfection de la rue Pierre-Péquignat à Port-en-Truil en est au niveau de l'hôtel de ville, les travaux à la place des Benelas remontent sur la rue du 23 juin. Une trentaine de mètres séparent ces deux chantiers qui ont mis à ciel ouvert des conduites vétustes. Pourtant, la conseillère municipale en charge de l'équipement l'a rappelé hier soir au conseil de ville, il n'est pas prévu de poursuivre les travaux dans la rue du 23 juin à cause des finances brintrutaines. De plus, le projet pour le réaménagement de ce tronçon n'est pas finalisé. Faire du transitoire, ça coûterait finalement plus cher, selon Chantal Gerber.
Mais il faut savoir que si on ouvre aujourd'hui pour mettre, par exemple, une conduite, on va devoir rouvrir pour mettre le thermoréseau, mais ensuite on va devoir aussi savoir où on met les conduites. À l'heure actuelle, on n'a aucune idée de où elles vont passer, parce que si on végétalise, on ne peut pas planter un arbre sur une conduite. En plus de ça, si on travaille les trottoirs, parce qu'on doit les enlever dans le cadre du projet Cœur de Ville, où est-ce qu'elles vont passer ces conduites? Elles vont peut-être être déplacées sur la largeur de cette route. Donc aujourd'hui, non. Il nous faut vraiment faire l'avant-projet et l'étude pour pouvoir pleinement travailler et non pas, justement, devoir ouvrir une fois, refermer, refaire ensuite une année après des travaux de pavage ou de végétalisation, ce qui serait d'autant plus coûteux sur ce tronçon.
Les très riches heures du Jura ornent désormais le collège de Delémont. La frise réalisée par le dessinateur Pitch Comment a été installée définitivement dans le hall de l'établissement scolaire. L'inauguration officielle s'est déroulée cet après-midi. La frise qui raconte l'histoire du Jura a été créée en 2019 sur une idée de Delémont BD. Elle a été complétée l'an dernier pour intégrer les votes historiques de Moutiers. L'œuvre humoristique de Pitch Comment sera utilisée comme support pour l'enseignement de l'histoire régionale. Directeur du collège de Delémont, Daniel Milani explique comment.
Je pense que de toute façon, en passant devant tous les jours durant leur scolarité, je suppose, j'espère que les élèves jetteront un coup d'œil, auront leur regard attiré par l'une ou l'autre des figurines de Pitch Comment. Et puis, évidemment, il en restera probablement quelque chose si leur regard est attiré, ils vont peut-être lire les notices, etc. Mais surtout, les enseignants pourront venir avec des classes. Comme c'est dans le couloir de l'école, ils pourront venir à tout moment pour voir une séquence de la frise ou l'ensemble de la frise, combiner ça avec des activités qu'il ferait en classe, avec un questionnaire ou différents éléments, je pense que c'est un support didactique qui est très intéressant pour enseigner l'histoire du Jura. Surtout que les divagations cocasses des personnages de Pitch Coman s'appuient sur des notices historiques qui sont correctes, hein, attestées. Donc c'est quand même quelque chose qui, sur le plan historique et scientifique, est correct, même si Pitch Coman y met sa patte et puis intéresse, attire le regard des personnes qui passent dans le couloir.
La frise de Pitch Coman, les très riches heures du Jura, mesure environ 30 mètres. La lutte contre la violence domestique progresse, c'est le constat des représentants des cantons et de la Confédération réunis aujourd'hui à Berne. Ils ont dressé un bilan intermédiaire 2 ans après l'adoption de la feuille de route sur la violence domestique. Plusieurs mesures ont été concrétisées, un guide pour protéger les enfants, des normes pour détecter les menaces et des projets pilotes de surveillance électronique. Un numéro de téléphone central pour les victimes de violences devrait être disponible d'ici 2025. La mise en place de cette mesure prend du temps. Les explications de la présidente de la conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales, la ministre jurassienne Nathalie Bartolo.
C'est vrai qu'on peut trouver que ça va vraiment trop long, mais c'est les joyeusetés du fédéralisme. On sait aujourd'hui que voilà, c'est pas simple au niveau technique. Et puis il est vrai aussi qu'il est apparu pour certains cantons que la mise en place de ce numéro de téléphone pouvait être difficile à assumer parce qu'on veut un vrai numéro de téléphone qui véritablement soit accessible par les victimes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout que les réponses soient de qualité. Et puis on constate que dans certains cantons, on n'aurait par exemple pas suffisamment d'appels pour pouvoir rentabiliser entre guillemets ce téléphone, d'où la nécessité peut-être de se coordonner avec d'autres cantons ou de réfléchir à travailler en partenariat, par exemple avec la main tendue ou avec d'autres entités qui ont déjà un numéro de téléphone 24 heures sur 24.
Une analyse a aussi été lancée pour trouver des solutions au manque de place dans les centres d'accueil pour victimes de violences. Nouvelle déception pour les fans de Céline Dion. La chanteuse québécoise annonce aujourd'hui l'annulation de tous ses concerts prévus en Europe jusqu'en avril 2024. Céline Dion évoque des raisons de santé. Elle est atteinte d'une pathologie neurologique rare et avait déjà annulé ses concerts prévus jusqu'à cet été. Céline Dion devait notamment chanter au Hallenstadion de Zurich en mars prochain.
Il est 18h08 sur RFJ.
Sport. Le football régional aura droit à sa fête en ce week-end de Pentecôte. Les finales de la Coupe jurassienne se tiennent ce soir, demain et lundi à Halle et au Breleu. Elles vivront leur apogée lundi soir en Ajoie avec un duel entre Porrentruy et Diaspora. L'enjeu de ce dernier match entre les deux équipes de deuxième ligue sera un ticket pour la Coupe de Suisse. Le format de la Coupe jurassienne va changer l'année prochaine pour les équipes actives. La phase de groupe va passer à la trappe au profit de matchs à élimination directe. Une seule équipe par club pourra y prendre part. Responsable technique de la JF, Cyril Maillard explique ce virage.
On a essayé de comprendre ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Effectivement, c'était très compliqué parce que pour se qualifier pour la Coupe Suisse, il fallait passer par des étapes avec des matchs en semaine, souvent dans l'Oberland ou dans le Mittelland. Et puis, en fait, le comité central de la FBJ a décidé de supprimer tous ces matchs et d'offrir, entre guillemets, un billet pour le vainqueur de la Coupe bernoise, un billet pour le vainqueur de la Coupe jurassienne. Et puis, partant de là, la commission de jeu a proposé un nouveau système pour cette qualification Coupe Suisse, en instaurant un système finalement d'élimination directe, tout en gardant une Coupe jurassienne régionale pour ceux qui souhaitent plutôt se préparer au championnat. Et je pense que cette formule-là, elle est attractive parce qu'on va avoir au mois d'août, tout à coup, une 5e ligue qui jouera une 4e ligue pour se qualifier au prochain tour et ainsi de suite. Et ceci va certainement attirer un peu plus de monde. On va aussi un petit peu modifier le calendrier en permettant de jouer les demi-finales un peu plus tard, dans une période, on espère, un peu plus favorable à la pratique du football. Et puis, évidemment, le clou du spectacle, c'est la finale, parce que lundi, j'imagine qu'il y aura quand même pas mal d'enjeux.
Le programme des finales de la Coupe jurassienne est en lien sur notre site internet. L'immense déception causée par l'élimination de la Suisse au championnat du monde de hockey sur glace ouvre des questions. L'une d'elles concerne l'avenir du sélectionneur Patrick Fischer. La défaite concédée hier à Riga face à l'Allemagne 3-1 est la 4e d'affilée en quart de finale de mondial. Sous la houlette du Zougois en poste depuis fin 2015, les Helvètes n'ont passé ce cap qu'à une seule reprise pour ce pari d'argent, c'était en 2018. Un bilan sportif qui a de quoi remettre en cause la position de Patrick Fischer selon notre consultant, le jurassien Geoffrey Vauclair.
Je crois que malheureusement, Fichy va être jugé sur ce dernier match contre l'Allemagne. Il y a seulement le résultat à la fin qui compte. Et puis une fois de plus, cette équipe de Suisse ne passe pas ce quart de finale. Il faut dire une chose, c'est que je pense personnellement qu'attraper l'Allemagne en quart de finale était le plus gros problème pour cette équipe de Suisse, parce qu'on sait que les Suisses n'aiment pas être le favori dans un match. Maintenant, moi je pense qu'il y aura des discussions au niveau du coaching de cette équipe de Suisse. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à reprocher à Patrick Fischer, mais les résultats sont là. Peut-être qu'il faut avoir une nouvelle voix dans le vestiaire, un nouveau discours, du sang neuf. Parce que, étant passé par des situations comme ça durant ma carrière, c'est vrai que des fois, il faut amener une nouvelle vision, quelque chose qui permette à cette équipe de repartir de l'avant.
Quelles caractéristiques il faudrait au nouveau sélectionneur? Qu'est-ce qu'il devrait amener en plus?
J'ai de la chance d'être dans ma position, c'est pas à moi de le choisir, c'est pas à moi déjà de faire le choix, de savoir si on va garder Patrick Fischer ou pas. Moi maintenant, je pense qu'on peut rester dans un coach suisse, alors on sait qu'il n'y en a pas beaucoup, et puis pourquoi pas essayer aussi quelque chose, pas amener de nouveau un de ces gars qui a fait le tour du monde 3-4 fois, qui a soi-disant beaucoup d'expérience, mais qui a des fois aussi une vision du hockey archaïque. Mais je pense qu'il faudra prendre quelques semaines pour bien réfléchir, et puis surtout dialoguer avec les joueurs pour savoir si eux aussi ils ont envie de continuer avec Patrick Fischer.
Geoffrey Vauclair au micro d'Émilie Momenthaler. Et on apprend cet après-midi que le championnat du monde 2027 aura lieu en Allemagne, préféré au Kazakhstan par le congrès de la Fédération internationale de hockey sur glace. Les matchs se disputeront à Düsseldorf et Mannheim. La compétition aura lieu en République tchèque l'année prochaine, en Suède et au Danemark en 2025 et en Suisse en 2026. Le contingent suisse à Roland-Garros s'élargit encore. Simona Waltert a réussi à entrer pour la première fois dans un tableau principal d'un tournoi de tennis du Grand Chelem. La grisonne de 22 ans a dominé la Française Elsa Jacquemot en 3-7 aujourd'hui, au troisième et dernier tour des qualifications à Paris. Grigor Dimitrov est le premier qualifié pour la finale du tournoi ATP de Genève. Le Bulgare a renversé l'Américain Taylor Fritz en 3 manches cet après-midi en demi-finale. Il affrontera en finale le vainqueur du duel entre l'Allemand Alexander Zverev et le Chilien Nicolas Jarry. Enfin, en cyclisme, victoire colombienne sur le Giro. Santiago Buitrago a remporté aujourd'hui en solitaire la 19e étape du Tour d'Italie entre Longarone et Trecime di Laveredo. Le Gallois Garin Thomas conserve le maillot rose de leader. Très belle soirée, excellent week-end.